CO. Peu importe où ça joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.
Bonjour, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast du Cannes Football Club, édition Couscous Piri-Piri en ce 22 avril 2018. Un beau dimanche chaleureux de printemps dans la métropole montréalaise. Salut Newton.
Comment ça va?
Ça va très bien, moi c'est Sofiane Benzaza, vous savez qui nous sommes. Nous sommes des membres du CANFC, la poutine du soccer, donc bienvenue sur la famille podcast du CANFC. Évidemment, nous sommes ici pour débriefer le match de l'Impact de Montréal contre le Los Angeles Football Club. Une défaite 5-3 de l'Impact de Montréal au Stade Saputo pour son premier match officiel à la maison, le vrai, celui du Stade Saputo. Donc bienvenue, on va évidemment parler du match. Et on va aussi répondre à vos questions, ceux qui ont tagué hashtag CCPP, et notamment aussi ceux qui ont aussi répondu au tweet question de Nilton, @NiltonGeorge, J-O-R-G-E. Nilton, juste pour rappeler aussi, Nilton, c'est qu'on voulait remercier tout le monde qui continue à contribuer à notre campagne Patreon, donc les patrons qui nous aident financièrement pour aider l'infrastructure du CANFC à continuer à se développer. Donc merci encore à tout le monde. Et si vous nous écoutez, n'oubliez pas de partager les liens des podcasts, que ce soit sur Spreaker, SoundCloud, iTunes et autres plateformes, pour partager à vos amis, pour qu'on puisse aussi s'inscrire aux fans du foot québécois via le CANFC. Bon, Nilton, l'Impact a perdu 5-3 contre LAFC, donc tout va bien, le plan marche à perfection. La transition est en pleine transition.
ce mot-là, transition, je suis plus capable de l'entendre. Ça veut tellement rien dire, là. Ça, projet... Tous ces mots-là clés là, qui servent
philosophie.
À tout le monde, philosophie. C'est quoi exactement une équipe de transition au foot? En tout cas.
Ben. Exactement. C'est un état transitif, un état de transition. Là, ça continue. Donc, voilà.
Ça veut tout simplement dire que les joueurs-là présentement en place ne sont pas assez bons, on en cherche d'autres, c'est tout.
Tout à fait. Tout à fait.
Okay.
Exactement, Elton. Merci beaucoup d'avoir écouté. On conclut l'émission.
Et on se revoit après la défaite d'Atlanta.
L'Atlanta, Newton a très bien résumé. On n'est pas assez bon, ramener les meilleurs joueurs. Et c'est fait. Et c'est vraiment ça, une des grosses raisons de Newton. Donc, juste pour rappeler rapidement les éléments partants, le match hier, samedi à 1h l'après-midi, du côté de LAFC, Miller dans les buts, Simon, Zimmerman, Djakovic dans un 3-4-3, Harvey, Kay, Fallharber, Betachour, et Vela, Urena, Rossi dans le 3 offensif de LA. Du côté de l'Impact, le 5-3-2. Bush, Duval, Cabrera, Camacho, Raetala, Lovitz, la ligne défensive, Silva, Piet, Taider, le milieu, et en pointe, du moins les joueurs offensifs purs et durs, Vargas et Piatti. Les effets du match, Piatti qui marque à la 9e, ensuite à la 16e sur penalty, Simon qui marque un laser sur Crofran à la 24e, et ensuite Piatti à la 43e qui marque sur un contre, un joli ballon lofté de Raetala pour donner 3-1 à la mi-temps. Cabrera reçoit un carton rouge à la 31e pour avoir empêché une chance de marquer à Urena qui ensuite voit son pénalty arrêté par Bush, donc d'où le score de 3-1 à la mi-temps. Et ensuite 4 buts consécutifs de LAFC, Fallharber, Raetala, on goal, but contre son camp, Vela sur penalty et ensuite Latif Blessing à la 89e pour donner le score final de 5-3. Bon, on a résumé le match. On peut commencer tout de suite.
C'était un match fou. Au moins, c'était le fun.
Non, c'était le fun. C'était malade.
On a eu du plaisir au stade.
Suivre ce match sur Twitter et ensuite le voir en différé, c'était assez intéressant. Si j'étais au stade, j'aurais pété ma coche tellement que c'était assez hallucinant. Allez.
Les 25 premières minutes, là, on aurait pu fermer le stade et dire c'est assez. Là. Tout était parfait.
Ouais, tout était
même
beau.
Peut-être la 43e pour le triplé. Là.
Ouais, l'impact jouait mieux. On sentait le renouveau de l'air garde. Tout le monde était content. Torres va peut-être venir à Montréal. On ne sait pas. Il y a des bonnes rumeurs.
Le 5-3-2 fonctionne.
Mais ensuite, LAFC profite de l'avantage numérique. On s'attendait tous à ce que ça arrive. La domination en deuxième mi-temps, mais on va en parler plus tard. On va commencer par nos évaluations. Saputo d'or, Tropoutine, Gélardin Foin. Du côté de Saputo d'Or, moi je le donne à Ignacio Piatti, sans hésitation, avec comme remplaçant Evan Bush. Ouais. Je pense que.
Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, qu'on lui donne à Bush parce qu'il s'est pris 5 buts. Certains trouvent des défauts sur ses buts, mais il ne faut pas oublier que sans Bush, ce match-là n'existait même pas. Là. Il n'a pas existé longtemps, mais sans lui, on n'aurait pas eu droit à une heure de jeu. On aurait eu droit à 5 minutes. Là. Il en a sauvé. Là.
Non, c'est vrai. Est-ce que le but de Simon était arrêtable? C'est très possible.
Je suis convaincu qu'il l'est. Mais.
Non, mais je me dis dans un.
Avant le match, il y a deux impressions. Il y a l'impression au stade, puis à la télé. À la télé, il avait l'air un peu plus arrêtable. Au stade, là, j'étais positionné en angle derrière. Là, ouais. Le tir était parfait.
Oh oui,
oui peut-être que s'il avait été placé un pied un peu plus à sa droite, il aurait pu peut-être la toucher, mais c'était un boulet. Elle a même touché, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu l'arrêter.
Non, c'est vrai, mais s'il y avait des buts à d'autres, on met sur le Simon, entre guillemets, parce que c'est de loin, puis Simon, il n'a jamais mieux avec l'impact, même cadré, je pense, peut-être une.
Non, il y avait beaucoup plus de chances qu'il pogne la cloche que le but. Là.
Exactement, ding, ding, ding. Et le but de Latif Blessing du 5e but, c'était un but de gag. Donc je pense que c'était le but du 5-3 à la 89e. On peut dire qu'on peut lui enlever le blâme.
La moitié du stade ne l'a pas vu, était déjà parti.
Tout à fait, je les ai vus. À la télé, il partait à la 83e. Là. C'est déjà juste après le but de Vela, c'était parti. Ton seul plus d'or, c'est aussi Piatti, je présume?
Ouais, ben c'est difficile. Il n'y a personne d'autre à part ces deux-là qui mérite quoi que ce soit de positif.
C'est incroyable. Hein. On a un buteur, mais ce n'est pas un attaquant. Il faut quand même le faire.
Quel joueur incroyable!
Ben oui, c'est
une chance qu'il y a lui, parce que sinon, ce club-là, il serait la risée de la Ligue, ça serait la risée de la ville. Piatti fait un spectacle à lui tout seul. Ce qu'il fait sur un terrain, c'est inconcevable.
Puis il a clairement un Piatti au sein de Saputo qui est très différent de celui des matchs extérieurs.
C'est vrai.
Il joue un peu différemment, non pas par choix, parce qu'on le couvre différemment, l'impact joue différemment à l'extérieur, mais il a une certaine énergie. Il trouve beaucoup plus d'espace au Stade Saputo. L'impact joue en général un peu plus ouvert, plus offensif, sauf plus ou moins. Là, j'exagère un peu. C'est relatif, mais on a cette impression parce que le public, la musique, l'annonceur, Piatti.
Il est bien à la maison. Puis, quand je le vois jouer comme ça, j'ai comme un sentiment de gâcher. Là. On manque quelque chose parce que.
Ah ouais.
Si on pouvait l'entourer un peu plus, Piatti, là.
Mais on se pose la même question quand on voit l'effectif, par exemple, d'Atlanta United au niveau offensif, quand on voit LAFC, Urina, que je pensais qu'il était nul à San Jose, fait un gros travail avec LAFC, puis il est entouré de Villa et de Rossi. On voit la différence. Exactement, puis on voit la différence. Il y a une différence par rapport à ça. Et puis, en tout cas, la saison est encore jeune.
Ça fait 7 matchs. Là.
Oui, l'Impact est à 6 points, 8e. Ils sont à 3 points des Red Bulls, à 5 points de Columbus et New England. Il y a encore du temps.
Ils sont à 2 points de Toronto, la dernière position. Ils sont à combien de points de la dernière position?
Ils sont à 3 points.
C'est ça,
ça ne prend pas Toronto à 2 points. Ils sont 1 point devant Philly et DC. C'est Toronto, eux, leur but, c'est de gagner la Ligue des champions CONCACAF. J'espère qu'ils le gagnent au nom du football à MLS.
Oh boy, aïe, le hate que tu vois.
Grosse dédicace à Thomas Mirjiga, mon ami. Je dis bonjour.
C'est toi qui gères son compte, dans le fond.
Hein. Tu t'es
trompé de password.
Ouais. Sur mon tweet deck, j'ai tellement de comptes, là, que je suis obligé de... J'ai dû delete. Mais en plus, j'aime beaucoup Osorio comme joueur. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup.
Je le déteste.
Oui.
Je le déteste pour les bonnes raisons.
Exactement. Il est très détestable, mais dans son évolution, foot, depuis qu'il a commencé sa carrière professionnelle, il a une certaine évolution. Donc, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis, voilà.
Tu
parles
de Toronto?
J'adore Toronto, Nilton.
Okay,
on arrête.
Trop poutine,
l'embarras du choix là. excuse-moi pour la toux, tout le monde. Du côté de mon trop poutine, je peux le donner face en allemand. C'est Lovitz Duval, le mérite facilement.
Je trouvais qu'il y a eu un bon match.
Oui. Non, en allemand.
Quand même.
Lovitz, je suis un peu dur avec lui parce que à chaque fois qu'il me fait un bon match défensif, Lovitz aura tout le temps l'air mauvais. Quand l'impact se fait bombarder comme ça. Parce que, en termes de transition et de dégager les ballons, les latéraux, ils font n'importe quoi parce que c'est le bordel hier, samedi. Donc, Lovitz faisait beaucoup, beaucoup mauvaise relance. Duval aussi. Mais Duval, en fait, Lovitz, je le mets là parce que je l'aime bien. Duval, je l'aime beaucoup moins que l'an dernier, mais il était vraiment mauvais. Puis je pense que Vargas, c'est un trop poutine invisible. Donc, c'est là, vous avez l'embarras du choix. Piet aurait pu l'avoir en deuxième mi-temps, mais encore une fois, il jouait à 10. Donc, Est-ce que je peux vraiment, est-ce que je peux vraiment juger d'une équipe qui a joué à 1h à 10 parce que ça allait bien pendant les 30-40 minutes à Duval, montait bien. Duval, c'était pas dégueulasse, c'était mieux.
Mais le vite aussi, wow. C'était pas si mal dans les 20 premières minutes où
On trouve Poutine en termes d'invisibilité, Vargas, même Tider aurait pu mieux faire. Ouais.
Tider. Il m'a tellement déçu dans ce match-là.
Ouais.
À un moment donné, là, il faut qu'il comprenne que son rôle, là, c'est aussi, même si c'est une recrue dans l'équipe, là, il faut qu'il prenne une place de leader. Puis quand tu joues à 10, la clé. C'était le milieu de terrain. Il fallait contrôler le milieu de terrain. Tider, il s'est fait passer complètement les ballons. Le ballon passait autour de lui. Il faisait des courses un peu inutiles.
Ouais.
Oui, Vargas, il est invisible parce qu'il ne sait pas défendre. Tider le sait, mais il a fait tellement mal dans ce match-là. J'aurais voulu le voir un peu prendre le rôle de Bernier au niveau mental. Parler à ses joueurs, les calmer, être un peu plus présent. Il a pas été bon dans la deuxième demi, là, ça. Quand Garde a voulu mettre quelqu'un d'autre sur le terrain, il a sorti Silva, mais c'est Silva qui faisait le gros travail, là, de récupération. Il essayait aussi de construire un peu plus intelligemment, de garder le ballon. Tider, c'est pas ça qu'il a fait, là. Oui, on critique Pierre, puis ça commence à me gosser un peu, là. On aime ça, manger le local. Hein? On a déjà vu ça avec les autres là, de l'académie. Là, dès qu'un Québécois, dès que ça va pas bien, on pointe le Québécois sur le terrain. Pierre, là, il s'est donné là, au max. Il était complètement brûlé.
Ouais.
Il s'était tellement donné sur le terrain que Garde l'a vu. Et quand il a rentré Kroliki, il a mis Kroliki devant la défense parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui court parce que Pierre avait couru. Partout sur le terrain. Il essaie de récupérer les ballons haut, en bas. Mm-hmm. Il a fait un gros boulot. Un milieu défensif, quand on est à 10, il est voué à mal paraître.
C'est ça. Normalement, Piet, c'est pas Patrick Vieira. C'est pas Roy King. Faut pas se leurrer là. Mais les gens ont des attentes. Et c'est vrai que le produit local, c'est organique, c'est bon. Mais dès que ça coûte trop salé, on le crache.
Oui, mais c'est pas les mêmes personnes. Tu sais, quand on dit qu'on est bipolaire, là, c'est pas vrai.
Oui, exactement.
Il y a des gens qui adorent, qui aiment trop le local.
Exactement.
Et quand ça va bien, c'est eux qui parlent. Et que là, quand ça va mal, c'est une autre tranche.
Tout à fait.
Il y a des gens qui parlent et qui exagèrent. T'sais, le même principe, là, on l'a eu aussi avec Ciment. Il y a le gros hate sur Ciment. Ouais. Ça, c'est une partie de la population qui exagère. Et la grosse dose d'amour, c'est la même chose. Là. C'est pas les mêmes gens qui parlent. Donc oui, on a l'air fou, disons, dans le timeline de IMFC, parce que ça va de tout bord, tout côté. Mais c'est l'exagération. Qu'on pouvait reprocher vraiment à Piet dans ce match-là? D'avoir couru et de ne pas avoir gagné tous les ballons dans tous ces duels?
Exactement. C'est pourquoi il faut prendre en contexte que l'Impact a joué à 10 pendant 60 minutes. Moi, comment l'Impact est structuré? Je les vois pas, je les voyais pas sortir avec un point contre Rossi ou René Vela et Fall Harbor. Moi, je le voyais pas ça venir. Ils auraient pu, si TFT se sont dit de la 45e à la 55e, on essaie de marquer le but du 4-1 pour finir ça. Mais honnêtement, je pense que.
Ce qu'on a pas vu dans ce match-là, c'est qu'il n'y a pas de leader.
Non, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas
un chef de meute, il n'y a pas quelqu'un qui rassemble. T'sais, oui, Piatti, c'est un capitaine, on dit par défaut, parce que c'est la star, parce que c'est lui qui produit le jeu. Et quand ça va bien, oui. T'sais. Quand il y a un pénalty, dans les autres équipes, on voit le capitaine se garrocher sur l'arbitre. Là, c'était qui parlait? Cabrera, qui est incapable de dire patate en anglais. Il y a Camacho qui est très, très décevant puis qui comprend pas trop ce qui se passe autour. Il y a Duval qui a crié, mais il n'y a aucune légitimité ou aucune crédibilité.
Zéro.
Et il n'y a pas de leader dans cette équipe-là.
Non, il n'y en a pas. Et puis, je pense que Tider avait ce leadership non dit quand il jouait.
Il faut qu'il apprenne à cette place-là. Là.
Non, mais c'est ça. Contre LAFC, il a pas eu ce rôle. Mais en même temps, je trouve que encore l'Allemand, on va parler encore de la transition offensive, mais l'Impact n'en a pas. Ils sont vraiment dans la schnoute, là, dans la merde par rapport à ça. On va en parler après. Gilard Dinfoin, pour moi, c'est le but de coupe Simon sur coup franc. C'est genre waouh. Ouais, c'est un moment loufoque. Simon qui marque un coup franc, déjà direct, et d'une beauté incroyable. Surtout qu'on avait parlé en groupe privé avec Alec où il avait prédit un coup franc direct de Simon. Donc,
la réaction de la foule, tu sais, ça a été comme par transition, ça aussi. Il y a quelques personnes qui s'est mis à applaudir, les autres ont regardé autour. Ah, ok, j'ai le droit d'applaudir. Et finalement, tout le stade à peu près a applaudi, sauf les haters. Oui, plusieurs trouvent ça exagéré, mais qu'est-ce qu'il y a de si négatif d'applaudir un gars qui a aimé la ville, qui a aimé ses partisans, qui était probablement en conflit avec deux, trois personnes du staff qui est resté là? Non, mais ça, c'est pas notre problème à nous. Lui, il a voulu rester ici. Nous, on aurait bien aimé qu'il reste ici. Il marque un but. Il a toujours respecté les partisans. C'était quoi le mal d'applaudir, là? C'était parfait la situation. On contrôlait le match. L'Impact dominait, elle est à ce moment-là. Ouais. Il marque un but sur coup franc. On n'a pas applaudi un but égalisateur ou un but de la victoire. Là. On a applaudi un but qui voulait à peu près rien dire à ce moment-là.
Non, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ça a bien résumé la situation, Hilton. Voilà, quoi. C'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Ce qui est arrivé est arrivé. Puis il s'avère que c'était un but important pour l'FC pour commencer leur remontada.
c'est un but clé.
Bon. Du côté Twitter, on a éphémère, @éphémère1, difficile à digérer celle-là. Saputo d'or à Piatti pour son premier 3 buts avec IMFC. Trop utile à Camacho, pitoyable ce joueur.
J'ai l'air d'un point, hein.
Vraiment direct dans le net. J'ai l'air d'un fond à garde pour n'avoir pas réagi en deuxième demi. Aussi, on a PL Diri et Piatti bouge comme Saputo d'or. Trop utile, Piatti et Duval. Qui donnait le ballon à l'autre équipe, Gérard d'enfant, les messieurs en jaune, qui arbitraient un match dans une dimension parallèle démoniaque. Et pour finir, Camille Lavallée, maintenant que j'ai déjà la défaite, Piatti, Saputo d'or, son meilleur match en bleu-blanc-noir, trop poutine la défense en complet, Gérard d'enfant, moins crédit 1-2 avec ma famille que Simon allait tirer son confrère dans les estrades. Donc, merci Camille.
Au moins, en fait, t'es bonne.
Ça, l'autocritique, c'est important. C'est une bonne qualité chez les gens. Donc, Camille, excellent. Donc, voilà. Et il y a un point pour faire la transition directe vers les sujets chauds. Je pense qu'il y a des questions par rapport à l'arbitrage, Nilton, qu'on nous a posé. Puis, le gérard d'enfant qui revenait souvent. On avait le gérard d'enfant, Alan Chapman, l'arbitre, pour l'ensemble de son œuvre qui était pathétique. Et aussi le commentaire que je viens de dire où l'arbitrage venait d'une autre dimension démoniaque. Donc, on va parler de l'arbitrage, Milton, on n'a pas le choix.
Moi, dans le stade, j'étais, comme tout le monde, scandalisé par l'arbitrage. Pourquoi? Peut-être parce que je suis trop impliqué dans ce match-là, je suis mal positionné.
Est-ce que tu l'as insulté? Émotif. Est-ce que tu l'as insulté?
Je vais dire oui si jamais quelqu'un m'a reconnu. Hein? Je ne veux pas être pris comme certains politiciens pour dire j'ai menti. Mais honnêtement, une fois là, bien calme, assis chez moi, avec les images de la télé, franchement, il n'y a pas beaucoup de mauvaises décisions de l'arbitre.
Donc, maintenant...
Il n'y a pas de scandale absolu.
On va aller action par action. Le penalty pour Piatti, est-ce que c'était un penalty?
Oui. Parce que à la limite, il aurait pu ne pas le donner le penalty parce qu'il y a eu un tir après. Ouais. Il a été correct. T'sais. C'est rare qu'on ne donne pas un penalty sur ce geste-là. Puis, clairement, avec les nouvelles règles de foot, c'est pas un rouge parce que le gardien, il s'en va vers le ballon.
Ouais.
Il tente au moins de jouer le ballon. Donc, la triple peine n'existe pas. Dans une situation comme ça, dans la boîte, quand c'est une faute et qu'il y a une tentative de jouer le ballon, c'est décidé maintenant que c'est qu'un carton jaune.
Et moi, dans le contexte de tout ce qu'on va faire par rapport à l'arbitrage, les différentes actions, c'est que je ne sais pas à quel moment le VAR a parlé à l'arbitre principal pour dire « C'est bon, ton appel était bon, t'as pas besoin de me voir. J'ai pas besoin de t'appeler pour dire « On va revérifier ça. » Oui, c'est ça, exactement. Donc, je me suis dit, si sur les 4-5 actions litigieuses sur lesquelles l'arbitre Chapman a pris une décision et que le VAR l'a tapé consulter, il est parti voir le iPad, puis vérifier l'action, puis parler au microphone avec son ami. Donc, je me dis, c'est qu'il y avait pas de drama tant que ça. Au stade, on a l'impression que c'est catastrophique. Moi, j'aurais regardé le match, les débuts, sur internet et ensuite le reste sur Twitter, donc j'ai l'impression que c'était vraiment le pire match arbitré du monde et il y avait des actions litigieuses, Mais j'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas eu de décision du VAR pour vraiment voir l'arbitre, prendre une petite pause, puis vérifier l'écran. J'aurais aimé voir ça au moins une fois.
Il va falloir éclaircir la procédure.
La méthodologie, le quand, exact. Le comment, exactement. C'est vrai.
Parce qu'il y en a certains, ils font leur comédien, les arbitres, ils mettent le doigt à l'oreille pour dire qu'ils sont en train de parler, probablement pas. D'autres, ils ne se sentent pas l'obligation, ils se font parler à l'oreille, c'est tout. Il y en a d'autres qui vont jusqu'à la télévision. Tu sais, toute la procédure ne semble pas être la même d'un match à l'autre, mais probablement que ça se fait d'un match à l'autre, c'est assez régulier, c'est juste que la démonstration sur le terrain ne l'est pas. Est-ce qu'éventuellement il va falloir donner plus d'explications? Est-ce que l'arbitre doit dire à un micro, comme ça se fait dans d'autres sports, après vérification, à l'assistance vidéo, il y a pénalité, il n'y a pas de pénalité, mais la décision sur le terrain reste. C'est tout simplement pour calmer tout le monde, pour pas donner l'impression d'un complot contre l'Impact de Montréal. Tu sais, spoiler alert, l'Impact de Montréal est vraiment pas assez important dans cette ligue pour qu'on puisse les rabaisser comme ça. Ils sont capables eux-mêmes d'être assez nuls sur le terrain.
Ils le font
ils n'ont pas
seuls.
Besoin des arbitres. Là.
Non, ils le font tout seuls. C'est excellent. T'as très bien dit ça, Nilton. Et ce qui est marrant, c'est que par rapport au VAR, qui va être utilisé à la Coupe du Monde 2018 en Russie cet été, c'est qu'on a vraiment besoin d'un peu plus de visibilité et de transparence pour les gens qui sont déjà dans le stade, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. T'as aucune idée. T'es assis dans un stade de 20 000, tu vois l'arbitre qui fait quelque chose avec ses bras, tu vois rien. Tu le vois pas, tu sais pas ce qu'il fait, il dit quoi. Et il parle de la main, il parle du tac, on parle de quoi exactement? De quelle action, de quelle partie de l'action l'arbitre est en train de d'analyser. Donc ça, c'est frustrant. Moi, tu regardes ça à la télé, tu dis, t'en sais pas plus. Les commentateurs vont te dire, les scripteurs vont te dire leur propre interprétation. Certains ont même des informations qui sont relayées. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on sait? Et ça, c'est embêtant.
Ils auraient même avantage parce que ça calme un peu l'ambiance. Puis une mauvaise ambiance contre l'arbitre, ça va gâcher un peu le jeu. Tu sais, sur le carton rouge à Cabrera, tout le monde dans le stade, moi compris, on trouve ça scandaleux que lui ait un carton rouge et que Piatti l'a pas pour le même pénal.
Hein? Tout à fait.
Et à la limite, le jeu, il y a la moitié du terrain à peu près du stade qui voit pas l'action très, très bien.
Ouais.
Ceux proches le voient un peu plus. On voit Cabrera toucher au ballon. On voit que le ballon rebondit. Parce que ce qu'il fait, Orenia, c'est qu'il laisse passer le ballon. Moi, je ne l'avais pas vu qu'il avait laissé passer le ballon.
Entre les jambes,
Ça touche à Cabrera. Le ballon se finit par se retrouver devant la course d'Orenia. Puis c'est là que Victor tire sur le bras.
C'est exactement.
C'est facile. Ça ne prend pas 5 minutes. Si on avait le même principe que dans d'autres ligues, puis il va falloir qu'éventuellement que le foot se sorte de son conservatisme.
Oui, oui.
L'arbitre, s'il est capable de dire il y a faute, il a fauté sur le joueur sans intention de toucher le ballon, admissible, expulsion automatique. C'est fini, c'est clair et net. Il n'y a plus personne. Il va du monde qui va chialer parce qu'on est local, on ne sera pas content. On sort de là en se disant c'est ça qui est arrivé.
Et je suis d'accord parce qu'un sport que j'ai pratiqué très peu et j'en regardais beaucoup à la télé, le rugby, l'arbitrage du rugby. Et c'est vrai que le rugby, c'est la référence. L'arbitrage vidéo n'est pas seulement pratique souvent parce que c'est long quand même. Mais ce qui est intéressant avec l'arbitrage, durant le match, il est tout le temps, il y a un micro souriant tout le temps et tu peux l'entendre. Durant le match, il est mic'é, donc on voit les conversations des joueurs et il leur dit. Parce que, et c'est ça un problème avec l'arbitrage dans le foot, puis ça a demandé un changement de culture. Une métamorphose de la culture du joueur et l'arbitre, parce que qui est au fait une transformation du sport lui-même. C'est pas l'arbitre et le joueur, c'est le sport aussi. Hein, c'est partie de la pratique elle-même du sport. Il faut qu'il y ait une certaine refonte par rapport à ça et la relation entre l'arbitre et les joueurs que je trouve très malsaine, mais extrêmement malsaine et même nauséabonde. Il faut que cette relation change pour devenir quelque chose de plus clair, de plus professionnel. Il faut que ce soit professionnel parce que là, je demande pas qu'il soit amical, juste soyez professionnel parce que on ne sait même pas si le fait qu'un joueur est le bon de capitaine, est-ce que ça lui donne le droit de parler à l'arbitre ou pas.
Exact.
Il n'a aucune règle. Je n'ai pas vu trouver une règle qui dit par rapport au capitaine que le capitaine a le droit de parler à l'arbitre. Maintenant, peut-être c'est écrit, mais est-ce qu'on dit aussi que l'arbitre peut refuser de parler au joueur s'il veut? Honnêtement, il faut qu'il y ait un sort de canal de communication pour dire « Ok, arrêtez de vous mettre 10 avec l'arbitre, laissez les deux capitaines parler à l'arbitre comme du monde, respectez le match, respectez le sport ». Puis faites communiquer de façon moins sauvage. Et moi, ce qui m'en a, quand je vais au foot, là, dans mon semi-pro amateur de garage là, à 250, là. Du 11 contre 11. L'arbitre, tu l'achalais tout le temps. Tu te plaignais, etc. Mais c'est vraiment lourd. J'essayais de le faire. J'essayais de ne pas trop le faire. J'en faisais pas beaucoup parce que je n'ai pas joué 150 matchs de foot amateur. Là, 11 contre 11.
C'est malsain, c'est pas le fun.
C'est emmerdant. C'est des êtres humains. Juste respectez-les. Mais que les arbitres aussi.
C'est là qu'on voit qu'un bon capitaine, c'est quelqu'un qui est politique aussi avec l'arbitre. Là.
Mais regarde,
on déteste Bradley, là, mais Bradley, il fait le travail d'un capitaine à la perfection.
Bradley, c'est un lobbyiste.
Oui, exact. Mais c'est ça le rôle de capitaine. Là.
Mais le problème, c'est que Patrice Bernier, qu'on l'avait avec nous plusieurs fois au show, puis aussi novembre dernier, dans l'autre vidéo qu'on a faite avec lui, même lui, il disait que l'arbitrage, l'arbitre dit, avant le match, on se parle et tout, on garde communication, et durant le match, le gars, il dit non, je ne veux pas te parler. Donc, il y a vraiment une sorte de...
Oui, mais là, le problème, c'est là qu'on revient à ton exemple du rugby. J'avais vu ça à la Coupe du monde de rugby. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très familier avec ce sport, mais j'avais été complètement blasté, puis j'avais trouvé le concept génial.
Oui.
C'est qu'une fois qu'il y a le micro, l'arbitre, lui aussi, est obligé de changer d'attitude. Exactement. Il peut plus avoir le même discours, la même arrogance. Tout de suite là, les conversations, on les entend live. Là. L'arbitre fait venir le gars, puis il explique, là, ça fait une fois, deux fois.
T'as dit le mot parfait. Expliquer.
On va avoir une entente, là, tu te calmes. Ou sinon, la prochaine faute, même si elle n'est pas grosse, je vais être obligé de t'en donner une jambe. C'est bon, monsieur?
Exactement.
Dans d'autres, ça n'existe pas autant dans d'autres sports, mais dans d'autres sports, on entend quand même des explications. T'sais. Dans un autre milieu conservateur qui était le hockey, il n'y avait absolument rien, mais même eux, ils ont mis un micro pour que l'arbitre explique ce qui se passe sur la glace. Parce que c'est pas vrai que si tu écoutes ce sport-là depuis 10, 15, 20 ans, tu connais toutes les règles. La preuve, Cabrera a fait un geste complètement stupide, probablement parce qu'il ne sait pas que c'est un rouge.
Ouais.
Et Rudy est là à côté, qui lève les bras, probablement que lui aussi comprend pas que dès que tu tires sur un bras, c'est automatique, tu joues pas le ballon. Une fois que tu sais la règle, là, tu peux pas contester le carton.
Exactement, parce que eux, ils contestaient pas la règle, ils contestaient le fait, mais c'est pas une faute grave, il a pas fait mal, donne un jaune, pas un rouge. Mais règle dit, tu as empêché une occasion de marquer. Donc, comme tu as dit, Hilton, c'est un rouge direct. Donc, même nous, ça a pris du temps pour qu'on le sache à travers les années. Oui, dans ces cas-là, c'est un carton rouge. Et je suis d'accord, Hilton. Et ça vient à l'éducation des clubs, de leurs joueurs. Faut leur dire, les gars, il y a ces règles qui ont changé. Ne faites pas ça. Si vous faites ça, sachez que c'est un carton rouge. Il va pas, le club, les coachs vont pas dire à leurs joueurs de ne pas se plaindre, de ne pas essayer de négocier. Et ça va rien changer en général. Et le VAR, il faut aussi qu'il soit beaucoup plus transparent par rapport à ce qu'on dise. Dites clairement avant chaque match, pendant un an ou deux, le VAR est tout le temps en contact avec l'arbitre. Dites ça, mettez un message sur Twitter, mettez un message à travers les diffuseurs télé, mettez un message clair avant chaque match au stade pour expliquer vraiment comment le VAR marche. Et mettez le VAR, le contact du public avec le VAR de façon plus publique. Mettez le contact entre la foule et le VAR public.
Faut impliquer ce qui se passe.
Faut impliquer les gens.
Faut les traiter. Là. Ces spectateurs-là, c'est ceux qui se déplacent, ça devrait être les personnes qui sont le mieux traitées.
Exactement.
Trop souvent, c'est l'inverse. Là.
Exactement.
T'as beaucoup plus d'informations, tu vis beaucoup plus l'expérience en tant que téléspectateur que spectateur. C'est un problème. Il faudrait que les gens qui sont au stade là, soient traités. Là, on a le fameux enjeu où on ne peut pas montrer de reprise parce que si et ça, mais une fois qu'on explique le jeu, on aurait pu le montrer la reprise. Ouais. Une fois que l'arbitre dit clairement là, puis qu'il y a une assistance vidéo qui le prouve que Cabrera n'a pas joué le ballon, il a fait une faute sans jouer le ballon, puis qui a empêché une occasion de but, on le remonte à l'écran, c'est fini.
Exactement, et puis...
Case closed.
Exactement, puis au fond, tu sais, en ayant une certaine transparence, tu es capable de vraiment de mieux communiquer le produit à tout le monde, à tous tes clients, à tous tes partenaires, à tous les partis pris autour de ce match-là. C'est aussi simple que ça, c'est pas une ligne fermée, c'est pas des Illuminati, des francs-maçons qui sont en train de se parler dans autour de table ronde et puis dire que l'impact on va les discriminer. C'est pas ça qui arrive là, il y a pas une chambre secrète quelque part avec Don Garber qui est en train de dire l'impact on les aime pas. Ça n'existe pas.
Arrêter, okay? Là. Ça n'existe je sais pas. Que c'est comprenable aussi là, Rimigard était probablement très 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 déçu et très très en colère. Mais quand il dit en conférence de presse que toutes les décisions ben on dirait que ça tombe tout le temps du même côté. Mais c'est triste, hein, Rémi, mais c'est parce que tu es tout le temps en train de défendre.
L'arbitrage ne va jamais...
T'as l'impression que les décisions ne vont pas de ton bord. C'est toujours toi qui cours après le ballon.
Exactement.
C'est pas vrai, là. Il n'y a pas eu... Cette saison, j'ai pas vu quelque chose de scandaleux anti-Montréal.
L'arbitrage, puis il a dit, l'arbitrage ne va jamais de notre côté. Il a peut-être raison, mais il exagère parce que...
Qui essaie d'avoir un jeu de possession où il est à 65%, ouais. Il va en avoir de l'arbitrage de son bord.
Exactement. Je n'ai pas envie de faire de la géolocalisation de... des comportements humains par rapport au foot, mais l'arbitrage en France, ils ont des problèmes en France. ils ont des problèmes de relation avec l'arbitre, comme ailleurs, mais en Angleterre, il y a un peu plus de respect. L'Italie, bon, ça dépend où tu es, mais l'Italie, c'est... Le football italien il meurt à petit feu, là, mais à part les top clubs, le reste du football italien est en train de mourir. Mais par rapport à la France, c'est pas... Je suis pas étonné qu'un entraîneur de Ligue 1 vient en MLS qui dit que l'arbitrage n'est jamais de notre côté. Surtout un coach qui était à Lyon. Avec le club de l'Olympique Lyonnais, qui a un président qui met Saputo, Joey Saputo version 2012-2015, Merritt Paulson, et prenait tout autre et tous les présidents de la MLS en même temps, combinés dans sa poche. Okay, en termes de critiques d'arbitrage public, systématique et instantané, sur Twitter, à la télé, multiplateforme.
Ah ouais, c'est le summum.
L'Olympique Lyonnais, c'est les champions. Mais honnêtement, dans ce domaine-là, c'est les champions. Donc, est-ce que je suis étonné que Rémi Garde de l'école lyonnaise soit dans le même délire? Non. Est-ce que je discrimine un peu en disant ça? Peut-être. Est-ce que je généralise trop? Très possible. Mais je ne suis pas étonné à 100%.
Mais même moi, c'est plutôt de l'émotion.
Oui, oui, exactement. C'est l'émotion.
Une fois qu'il revoit le match, il va faire comme nous. C'est lundi. Il va dire que c'est un idiot, il peut pas faire ça.
Ben oui, il va aller sur l'application podcast, Can Football Club Plus.
Il n'y a pas besoin.
Il va subscribe, il va dire ok, il dit quoi Nathalie Sofiane? Patreon, il va donner 5$, il va être content.
Ok. Hey, est-ce qu'on vient de faire 30 minutes de trop de poutine puis d'arbitre, c'est ça?
Ben, l'arbitrage, c'était la première question.
Oh God, ok, on va aller aux questions d'abord.
Mais on est déjà aux questions, Milton, l'arbitrage.
Déjà, ok.
Mais on peut continuer sur Chapman si vous voulez, mais il y avait des controverses. Hein. Donc, juste pour finir, il y avait quoi? Le penalty de Vela.
Plus tard, il y a Piatti là, qui va épaule à épaule avec.
Est-ce que c'est une faute?
Avec Simon et Zimmerman.
Le fait qu'il y ait faute ou pas m'intéresse moins parce que je pense qu'il y avait faute. Sur Piatti.
Il y avait
faute, mais si Piatti n'avait pas plongé auparavant et se prend un carton jaune, je pense qu'il aurait appelé faute, mais ça, c'est, je spécule évidemment.
Il était déjà en déséquilibre. Ouais, il avait vraiment la possession de la balle.
Une faute est une faute quand même. C'est ça le concept de la faute. Les gens disent il n'avait pas le ballon, mais il y a faute ou pas? Est-ce que le gars est-ce qu'il a kické dans sa jambe? Oui, ben, il a faute.
Mais pas tant que ça. Ils vont les deux. C'est pas...
Moi, je trouve que Simon, il a pas fait de faute. Il a gêné, il a dérangé, mais il n'a pas eu de faute.
Ouais.
C'est Zimmerman qui a vraiment fait la faute s'il avait une. Puis encore une fois, je suis étonné que le VAR n'a pas été impliqué. Que le VAR n'a pas dit hop, il faut qu'on revienne, il faut qu'on revérifie ça. Il y a que ça qui m'a choqué. L'arbitre a pris sa décision, mais je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de VAR, mais on verra ce qu'ils vont dire.
Avec tout ça, on a déjà répondu, c'est ça, à la question de Benoît Tourangeau qui parlait des rouges et tout ça.
J'ai tout compris, Nilton. Moi, je suis bon, j'organise ça.
Il y a Dr. Foot qui nous avait déjà posé la question sur l'inconstance des arbitres. Ils semblent toujours nous défavoriser.
Non, mais
il y avait une autre question de Dr. Foot qui est bonne.
Oui.
Il nous dit, pensez-vous qu'au lieu de mettre 5 millions sur un staff, Saputo aurait dû mettre cet argent sur des joueurs?
Je te laisse parler, Nathan. J'ai trop parlé depuis 20 minutes. Là. Je suis fatigué.
Ben, moi, non, parce que je veux du bon monde en place pour choisir ses joueurs. Dépenser de l'argent, c'est facile. Nick DeSantis l'a fait avec Bernardello. Il l'a fait avec l'autre, le défenseur là, qui a joué 45 minutes avant de se péter le genou. Là. Comment il s'appelait, l'Espagnol? Pisco,
son nickname. Ouais.
Visiblement, Camacho, ça semble être un recrutement de Nick DeSantis. Pour l'instant, ceux que Rémi Garde est allé chercher, bon, ils se sont blessés. Mais les minutes qu'ils ont joué, ça a l'air déjà mieux. Là. Fait, c'est important, les décideurs. C'est important de pas faire le gratte-ciel dans ces postes-là. T'sais, oui, on se dit qu'après coup, sur le terrain, ça fait dur parce qu'on est obligé de surutiliser des gars comme Kroliki, mais on peut pas. Montréal n'a pas l'avantage d'Atlanta, de LA, c'est-à-dire juste sortir le chèque puis dire à une superstar, tu viens, ça coûte 15 millions. Non, Montréal doit convaincre un gars de venir à Montréal. Montréal doit utiliser ses connexions. C'est pas si évident que ça, on l'a vu. L'après Divayo, ça a été compliqué à trouver. T'sais, Drogba, on n'a pas trouvé Drogba, c'est Drogba qui nous a trouvé. Éric Rigard utilise son réseau pour signer. Éventuellement, ça va aider. Malheureusement, cette année va peut-être être sacrifié parce que Rémi Garde est en train d'apprendre c'est quoi son équipe, c'est quoi cette ligue et qu'est-ce qu'il a besoin pour réussir dans cette ligue-là. Éventuellement, Rémi Garde va être capable de trouver les éléments.
Je suis d'accord, puis en plus... Oui, vas-y. Oui.
Mais entre-temps, c'est pénible, c'est vrai.
C'est pénible. Regarde, ton exemple d'Atlanta United était parfait parce que, si tu vois Atlanta United, comment il s'appelle? Tata Martino, il n'est pas là pour faire 100 000 par année. Il n'est pas venu pour faire
Et lui-même sert au recrutement.
Exactement. Donc,
quand Almiron a signé, il l'a dit, là, c'était un rêve. Là. Quand il a eu le coup de téléphone pour dire... Tatar Martino, tu serais intéressé de t'avoir dans ton équipe. Il n'a pas cherché à savoir c'était où, l'Atlanta. Il a dit, fine, j'y vais, là.
Non, exactement. Et puis, quand tu vois le staff d'Atlanta United, quand tu vois le staff de LAFC, tu as l'impression, en regardant le recrutement de LAFC, est-ce que tu as l'impression que LAFC a décidé de recruter moins sur le staff et plus sur le joueur? Non, ils ont recruté autant sur le staff. Ils ont Mike Sober. Je pense que Mike Sober, ex-Impact, c'est le. Il est directeur technique maintenant avec LAFC, je pense. En tout cas, il a un rôle assistant et technicien avec LAFC. Donc, Marc Dos Santos, ton coach chéri, qui est là. Et,
on n'a pas le droit, hein? Il n'a pas le droit à l'applaudissement, lui.
Bon, personne ne savait c'était qui, de façon.
Voyons donc. Tu trouves ça normal? Ancien coach, il a gagné le dernier titre championnat. Il n'est même pas présenté.
Hey, il avait l'air jeune. Tout le monde pensait que c'était un physio. On ne sait pas ce qu'il est. Ok, je blague. J'aime beaucoup Marc.
Mais c'est quand même assez spécial, non?
Non, c'est assez spécial, mais je ne pense pas que l'Impact aurait salué. Le club aurait salué Marc Dos Santos durant un match de saison.
Avant, pendant, après, il n'y a eu absolument rien.
Ouais, il est encore jeune. C'est pas comme s'il est dans la cinquantaine puis il prend sa retraite. C'est plus tard. Je pense que plus tard, ils vont le faire. Et puis, tu sais, que les médias fassent des entrées avec lui. Hein.
Gars local, là, Simon. Oui, il est bien. Il a passé 6-3 saisons. Mais Marc Dos Santos, c'est un gars de la place.
Ouais,
c'est un gars de la place qui a permis beaucoup à Montréal d'être là où il est, en tant qu'assistant. Il était là lors de la période, la première épopée de la Ligue des champions, qui nous a donné un trophée. Il revient dans la MLS à LA.
Mais
non, absolument rien.
C'est un gars de la place qui était dans la Ligue qui n'existe plus. Là, donc, ça aussi. Non, mais je ne dis pas que je ne justifie pas mon point. Je dis juste, je pense que ce match-là n'était pas nécessairement la plateforme pour dire merci Marc Dos Santos. Tu peux dire bienvenue Marc Dos Santos. C'est RDS, TVA Sport, TSN, tout ça, 95, faites un truc avec lui. Sinon, bon, voilà.
Et on dira salut quand il sera coach en chef à Toronto.
Exactement. Impact Media, ils ont pu faire un truc avec lui, c'est leur problème. Là. Moi, Marc Dos Santos, on a parlé à une semaine de la finale USL avec les Swope Park Rangers, qu'il a perdu, et on a fait notre travail. On sait exactement c'est quoi sa philosophie, puis deux ans plus tard, un an et demi plus tard, pouf, il est assistant de Bob Bradley. Merci, bonsoir, CANAFC. Boum, la politique du soccer. Donc.
Je ne sais plus par quoi on avait commencé.
On parlait du staff et des joueurs. Donc, pour dire LAFC, ils ont dépensé énormément, que ce soit Simon, Rossi, Zimmerman, Vela, Fellheiber ou Reyna. Et ils ont un staff de qualité, du moins qui coûte cher. Donc, l'Impact, on le répète pour la énième fois, l'Impact ne s'est pas recruté. De 2012 à 2018, tu prends la moyenne. La note des recrutements qu'on aurait donné à chaque joueur et à chaque idée.
Ça commence à être mauvais. Ouais, faudrait faire l'exercice, hein, parce que ouf.
Mais moi, je dis facilement, c'est du 4 sur 10. Là. Vraiment, ça ne peut pas être plus que 5 sur 10 parce que l'Impact n'a rien fait. dans cette ligue-là. N'a pas créé de jeu, n'a pas identité, n'a pas... voilà, n'a pas...
C'est toujours à recommencer. C'est rien à long terme. Là.
Exactement.
On est là pour patcher, là, on met du duct tape, puis une fois qu'il décolle, on va rechercher un autre rouleau.
Et c'est pourquoi ça fait mal quand tu m'as fait réaliser que voir Piatti jouer comme ça et faire tout ce qu'il fait, c'est un gâchis.
Ouais, c'est un solide gâchis. Même pour lui, là, des fois, je me dis... Si j'étais son ami, mon conseil, ça serait d'aller ailleurs. Parce que ailleurs, dans une autre équipe, Piatti, c'est une méga vedette. Là.
Ah oui, bah oui, bah oui.
C'est une méga vedette. Il est dans tous les promos de la MLS. Imagine, là. Il est meilleur qu'Almirón?
Il est différent.
Ouais, d'accord. Il est plus tranchant, mettons.
Il est plus buteur.
Peu importe, je veux dire... Il tient en. Sa présence à Montréal fait en sorte que le club
peut potable.
Peut de temps en temps compétitionner puis donner l'impression d'être une équipe MLS. Autrement.
Si tu vois le jeu de l'impact, puis incluant son hat-trick contre LAFC, je trouve ça incroyable que quand même, il est parmi les top buteurs de la ligue, les top 15, là, parmi des attaquants de pointe, là, des Ardèzes. Ouais. Oh. Nikolic, Dan Dwyer, Bradley Phillips, José Martinez.
En étant tout seul, parce que c'est lui qui fait tout. Parce que, tu sais, un Nikolic, par exemple, il a réussi tous ses buts-là grâce au travail derrière lui, là.
Ouais, Nikolic, c'est la version, c'est la bonne version de Mancuso. C'est genre ce que Mancuso est supposé faire.
Ouais.
Est-ce que j'ai encore fait une référence Mancuso? Oui,
encore,
je l'ai fait encore.
Au moins, tu ne l'as pas fait avec Cavani.
Ah non.
C'est déjà moins, ça fait moins mal. Mais, tu sais, oui, c'est ça. Nikolic, c'est un finisher. T'sais, David Fila, oui, il se produit lui-même un peu de ses occasions, mais c'est quand même un finisher.
Tout à fait.
Piatti, c'est le créateur qui finit sa création. C'est
exactement,
fou, là.
Exactement. Et qui manque ce fameux troisième joueur. Et on va parler de Alejandro Silva, Nilton, parce que j'ai hâte de parler de ce joueur-là. Malheureusement, c'est trop tôt pour faire une opinion tranchée de mon côté sur lui. Mais je pense qu'on a des questions sur Silva, je pense. Notamment une par rapport au milieu de terrain.
Ouais, ben, moi, Silva, sur ce match-là, ça, c'est encore à deux volets. Moi, j'étais déçu quand je suis sorti du stade parce que je cherchais son apport offensif. Mais après avoir revu le match, là, c'est le seul qui a donné. Toutes les minutes, il a travaillé très fort. Là.
Oui.
Franchement, là, il a été dans les duels. Il a gagné quelques duels, même s'il faisait des 1 contre 2. Dans le milieu de terrain, là j'ai compris pourquoi on le dit qu'il est un peu, il est polyvalent. C'est parce que il est pas juste unidimensionnel comme Vargas. C'est-à-dire une fois que l'impact a pas le ballon, Vargas sert un peu à rien. Silva lui est capable de gagner des ballons, est capable de faire du pressing. Là ce qui manque c'est de voir un Silva dans une dimension offensive. Puis on l'a jamais vu.
Et justement, et par rapport à... Oui.
Parce que là, on est pris par défaut. T'sais, à deux fois, on était obligé de le mettre comme latéral. Là, on était obligé de l'essayer comme milieu central parce qu'il manque justement ce poste-là.
Oui.
Mais une fois qu'on va l'essayer dans un rôle purement offensif, j'ai vraiment hâte de le voir parce que là, il va être très utile dans son couloir droit parce que contrairement à Piatti, même si Sérémy garde... Au départ, c'était sa volonté, c'est qu'il travaille un peu plus à la récupération du ballon puis à la défensive. Piatti n'est pas capable de faire ce travail-là en étant tout aussi efficace offensivement. Silva, c'est sûr qu'il va être moins efficace offensivement, mais je pense qu'il va être une version... Comment je pourrais dire? Il pourrait ressembler un peu dans le rôle qu'il avait Justin Mapp, c'est-à-dire qu'il était capable d'être très travailleur en phase défensive et d'être assez percutant offensivement parce que les combinaisons qu'il y avait dans les 25 premières minutes à droite, elle était intéressante. Lors du but qui a été refusé, il avait permuté avec Tider. On le voit très à l'aise là, pour être assez électron libre et se promener efficacement. Donc, je suis pas trop pour l'instant, je suis encore positif et optimiste. Sur le projet Silva, on va l'appeler comme ça.
Non, t'as raison par rapport à Silva. Puis le point clé, de, les mots clés, c'est le projet Silva. Et puis, pas, j'ai besoin de plus de matchs, de le voir jouer déjà à 11, dans un contexte favorable pour l'impact, ne pas se faire dominer par les Red Bulls comme jamais. Mais on ne peut pas choisir les conditions du match. Mais on espère voir plus de matchs où l'impact joue à 11 que l'impact joue à 10, déjà. C'est la tendance qui va arriver durant une saison MLS. Du moins, c'est ce qu'on espère. Et par rapport à Silva, ce que je trouve important pour pouvoir l'évaluer, c'est que est-ce que Silva est un créateur de type, un créateur ou un facilitateur de jeu, ou est-ce que c'est le carburant, la flamme pour créer de l'offense, pour créer de l'offensive. C'est ce que je me demande. Est-ce que c'est un facilitateur, est-ce que c'est un tider plus, ou est-ce que c'est un ailier explosif qui est capable de tirer, parce qu'il a une tendance à vouloir tirer. Est-ce que c'est un bon passeur, clairement, mais est-ce que c'est plus un ailier qui est capable de couper vers l'axe, ou est-ce que c'est plus un gars qui va un peu devant Tider? C'est ça que j'ai hâte de voir.
Bon, moi, ma comparaison avec Justin Mapp était peut-être pas bonne. Regarde, c'est bien meilleur Andrés Romero. Dans le sens où c'est un gars qui est extrêmement physique, qui est hargneux sur le terrain. C'est pas un créateur pur. C'est pas un gars qui va gagner du one-on-one.
De façon régulière, de façon systématique.
Exact, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une intelligence de jeu collectif, tant défensivement qu'offensivement. Mm-hmm. Peut-être qu'avec le temps, il va se libérer, il va prendre confiance, puis il va dire peut-être que ce que je n'étais pas capable de réussir en Argentine, je vais pouvoir peut-être le faire de temps en temps en MLS, puis il va s'essayer un peu plus. Mais il manque encore. C'est pas la solution pour temporiser le jeu.
Oui, et justement, c'est pourquoi, c'est mon point. Est-ce que c'est un facilitateur, ou est-ce que c'est un joueur qui va exploser du côté droit et vraiment faire mal et percuter? Et c'est ça qui m'intéresse de savoir. Peut-être qu'il peut faire les deux, mais l'Impact n'a pas le luxe de faire des expériences tout au long. Le laboratoire doit être fermé. Non? Le R&D, c'est fini. C'est le moment d'exécuter.
Ils sont obligés d'être tout le temps en mode essai et erreur, parce que c'est vrai. Soit les blessures, soit les suspensions et le recrutement non terminé.
C'est vrai, puis Rémy Garde l'avait dit, je pense, que deux jours avant le match, où l'Impact n'a pas la profondeur de se permettre d'être sans Piatti et Tider. Ce qui est un peu normal, je vois pas LAFC survivre sans Rossi et Vela pendant 2-3 matchs. Là. Ils ont besoin de ces joueurs-là.
C'est sûr. Pour répondre à Jérémy Trudel, qui parlait du trio du milieu Tider, Piet, Silva, est-ce que ça va être la base sur laquelle on va construire jusqu'au mercato? J'ai l'impression que malheureusement, oui, parce qu'ils ne pourront pas trouver de solution avant cet été. À ce troisième milieu de terrain.
Aucun club MLS va leur donner un bon joueur de milieu de terrain.
À moins que cette semaine, par miracle, soit que Montréal surpaye pour aller chercher une Guyane, soit que la Nouvelle-Angleterre décide que, OK, c'est assez, on a passé le message, là, une Guyane, on va finalement l'échanger. Mm-hmm. Parce que là, ils sont en train de perdre de l'argent, puis qu'éventuellement, le 750 000 qu'ils veulent avoir en gamme et en table, rendu au mois de juillet, rendu au mois d'août, il vaut plus ça, là. Nguyen, il, sur sa dernière année de contrat, il vaut de moins en moins. C'est un joueur qui coûte cher de son salaire. Lui-même, son salaire coûte cher. Et peut-être que, miracle quelconque, on signe un joueur d'ici mai, mais la solution... Ah, c'est une catastrophe.
plus tu parles, plus tu es en train de paniquer, plus tu dis genre hashtag no playoff, Linton. Ça commence à arriver, là, je le sens.
Ouais, ça, c'était une question de Sam Bopé, Pierre Maillot, qui veut absolument que je la sorte, la no playoff. Mais quand tu regardes, ouais.
Plus on parle, Linton, ça va être trois podcasts, trois épisodes de suite où on se dit on va attendre, mais à un moment, c'est quand qu'on s'arrête, parce que là, la semaine prochaine, c'est qui? C'est Atlanta United.
C'est défaite.
Gâche-tu. Oui, mais c'est gâche-tu. Donc, t'as Atlanta United, ensuite,
New
England à la maison. 3-4
Si on perd contre New England, parce que c'est un adversaire direct, ils ont quoi? Ils ont 11 points, New England?
Oui, et l'Impact joue 3 jours plus tard, 4 jours plus tard à Chicago, pour revenir à la maison 3 jours plus tard contre Philadelphie. Donc, la question qui tue, est-ce que l'Impact joue sa saison entre le 28 avril contre Atlanta et le 12 mai contre Philadelphie. Okay.
Tout le monde va dire que non, parce qu'il est trop tôt. Puis c'est la réponse la plus facile, c'est non, je ne joue pas la saison. Maintenant, toute cette merde. Mais la vraie réponse, c'est oui.
Ouais.
Si Montréal se retrouve, parce que leur concurrent direct, c'est pas Toronto. Là. Toronto va finir dans les séries, on s'entend?
Et Toronto va être champion de CONCACAF.
Bon, c'est assez, on a assez de parler de Toronto. Nos concurrents directs, c'est les clubs qui ont pris beaucoup de points en ce début de saison et qui n'étaient pas prévus. C'est-à-dire Orlando qui ont 13,
ouais.
New England qui ont 11, Columbus aussi 11, et nous, on a 6. On se retrouve à peu près à mi-chemin, OK? Là, on va dire, ouais, Montréal est à 3 points des playoffs. Non, c'est pas vrai, parce que Red Bulls, qui a 9 points, a le fameux match en main, et ils vont gagner d'autres matchs plus tard.
Ben oui.
OK? Donc, si on perd ce match-là contre New England à la maison, au lieu d'être à 5 points, on se retrouve à 8 points. Oui, la saison est jeune, blablabla, bla, bla, cliché, on s'en fout. Réellement, ça devient extrêmement compliqué. Il faut commencer à espérer à aligner des victoires. C'est les fameuses victoires qu'on n'est pas capable d'obtenir puis qu'on dit qu'on va obtenir rendu plus tard dans la saison.
Exactement.
Ça se peut pas. Et tu sais, oui, on a hâte que je dise nos playoffs, mais si je dis nos playoffs puis qu'on fait les playoffs, on va voir rire de moi. Donc, je vais attendre encore un peu. Mais on est vraiment pas loin.
Non, mais c'est très... Je te pose la question parce que c'est pour avoir cette réponse et je suis d'accord avec toi, Nilton. C'est pas le moment de paniquer totalement, mais c'est le moment il faut être réaliste, exactement. Il faut vraiment prendre ça match par match, littéralement de façon langue de bois, match par match. Parce que quand on regardait l'horaire des matchs, le calendrier auparavant, on se disait, ah, Houston, on va perdre. Ah, Houston, oublie ça. Il y a des matchs, tu dis à l'extérieur, oublie ça. Dallas, tu gagnes pas. Houston, tu gagnes pas. Et les Galaxies, tu gagnes pas. Donc tu dis, c'est fini. T'as oublié, t'as aucune chance. Maintenant, c'est les clubs marginaux, qui étaient marginaux comme l'Impact, qui commencent à déranger pour pouvoir prédire une sorte de victoire ou pas. Tu dis Philadelphie. Tout le monde pense que Philadelphie c'est la sous-crasse de la crasse de la MLS, mais ils sont
plus que nous.
Ils sont pas si loin de l'Impact. Chicago, ils sont en creuse crise d'identité, mais c'est une équipe qui essaie de construire de plus en plus, mais ils ont beaucoup de joueurs qui sont pas vieux, mais ils ont un mix de vieux et de inexpérimentés. Mais maintenant, quand tu joues contre New England, Chicago, Orlando, New York City FC, t'as aucune idée de ce qui va arriver. Tu peux pas prédire, on va gagner.
Oui, et puis quand on a cet écart-là, on n'a plus de marge de manœuvre. Exactement. C'est-à-dire que contre ces équipes-là, on doit les gagner match après match.
Et sans hésitation.
Je vois pas cette équipe être capable de maintenir
un rythme soutenu comme ça. Et c'est ça qui dérange en Hilton. Parce qu'avant, peut-être il y a quelques matchs, on disait l'Impact gagne 2 matchs de suite, ils pourront survivre jusqu'à juin. Tu gagnes 2 matchs de suite, prends des matchs nuls, tu survis. Là, on arrive, on se rapproche très rapidement aux fameuses phrases, il faut que l'Impact gagne, fasse des séquences de 4 victoires, 5 victoires. Mais c'est
insoutenable. Avec les mêmes joueurs. Avec les mêmes joueurs qui nous ont donné des séquences de 4 défaites.
Avec les mêmes joueurs, et c'est un joueur clé des nouveaux, se retrouve déjà dans la liste des trop poutines. Imagine. Donc, tu prends tout ça ensemble, tu dis... On est déjà au mois, la mi-avril, proche du mois de mai. Le printemps arrive, il fait chaud, il fait beau. Il fait plus chaud, pardon, il fait un peu plus beau. Et déjà, on va commencer à se dire, il faut que l'Impact gagne 3 matchs consécutifs. Littéralement. Là, Atlanta, le 28, c'est à Atlanta. Après, tu as le 5 mai, le 12 mai et le 21 mai. C'est au Stade Saputo. Incluant le 9 mai à Chicago, mais tu as 3 matchs au Stade Saputo. Contre New England, contre Philly, contre LA Galaxy, Zlatan. Ou peut-être pas Zlatan, on verra. Par rapport à la Coupe du Monde, s'il y va ou pas. Donc.
Ça va être une catastrophe contre Atlanta, là. Donc, ils ont perdu leur premier match. C'est un peu la folie à Houston, 4-0, mais ils ont quoi? Ils ont 5 victoires, un match nul contre New York City FC. Et on va en manger toute une, là. Ça va aller vite, là.
Et puis, quand tu. Voilà, l'Impact, c'est quand même pris. Là, 12 buts. Si on a pris 12 buts en 3 matchs.
Là, on va être obligé vraiment d'être à 4 défenseurs. Et là-dedans, c'est notre nouveau régulier et pilier défensif, Raitala. Et celui que finalement, peut-être que les vidéos YouTube étaient en accéléré parce qu'il y a l'air vraiment là, Rudy Camacho.
Tu vois ça que Fanny va être forcé à commencer? Parce que là, il était pas loin de jouer contre...
Oh, ça va être la surprise. C'est l'élément de surprise, on va pas le dire. Là, ça vaut la peine de pas nous le dire.
Est-ce que Fanny...
Gang, soyez pas fâchés. Là, quand on ne sait pas si un joueur va jouer et qu'il va jouer finalement, c'est là que c'est surprenant pour une équipe.
Est-ce que Fanny va prendre l'avion? C'est ça la question qu'on se demande. Okay. Et on ne peut pas le dire parce que Tata Martino est en train de calculer si Fanny vient ou pas.
On va payer Alec pour qu'il reste sur, dans le parquet de l'aéroport pour vérifier.
On va aller payer son parking, là, à 20$ la journée, on va le gérer.
Son Uber.
Ouais. Puis on a Uber, c'est moins cher. On paye Uber, Alec, on paye Uber pour on paye ton Wi-Fi et ton LTE pour une journée.
C'est ça. Tu suis les joueurs de l'Impact partout.
Exactement. Tu es sponsorisé par CCPP.
Si on est capable de vendre les photos, tu prends une cote.
On va t'envoyer du gear hashtag CCPP, ça veut dire. On va le faire là sur Amazon. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres questions ou
celle-là, c'était celle de Rémi Trudel. Benoît Tourangeau, on pose une très bonne. Est-ce que Rémi Garde s'est fait hard coacher?
Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Les gens sont encore plein sur Twitter par rapport au manque de changement.
Ouais.
Par Rémi Garde, mais quand tu vois son banc, j'ai dit, mais
il est en train de... Le changement qu'il y a eu, le hard coaching, j'imagine ce que Benoît fait référence, c'est qu'à la mi-temps, Bradley, ce qu'il fait, c'est que lui, il arrête de jouer à 5 défenseurs. Au lieu de jouer 5-2-3, Dehan, puis il rentre Blessing, puis il joue en 4-2. Bon, en 4-4-2, mais
je pense à 2-4-4.
C'était plus 4-2-4.
C'était 2-4-4, là, quasiment 2-4-4.
Exact.
2-4-4. Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Rien fait. Ça a été une très, très grosse critique. Là. On s'entend que c'est si Rémi Garde s'appelle Mauro Biello, puis qu'il ne fait aucun changement à la mi-temps, puis qu'on se prend deux buts rapides comme ça, le Fire Biello, il est en... Il trend.
Il trend sur Transmap Montréal. Mais regarde, honnêtement, le fait qu'il perd Cabrera dans le match, je pense que ça lui limite beaucoup de choix tactiques. Parce qu'il est obligé de, il est obligé de garder deux défenseurs centraux parce qu'il sait qu'il ne va pas marquer des buts. Excuse-moi?
C'est pas là l'enjeu. De toute façon, il restait que Petrasso sur le banc comme option.
Option. Exactement. Et puis, je pense, honnêtement. Soyons honnêtes, Nilton. Honnêtement, au fond de toi et au fond de tous les 21 000 personnes qui nous écoutent en ce moment. J'espère qu'il y a 21 000 personnes qui nous écoutent, qui étaient au stade.
21 000 ou 20?
Les 20 personnes qui nous écoutent en ce moment. Tous ceux qui vont partager ce podcast avec leurs amis et les autres fans de l'Impact de Montréal et du foot, au fond de vous-même, quand c'était 3-1 à la mi-temps et vous savez que Cabrera a été expulsé 15 minutes avant, est-ce que vraiment vous pensez que l'Impact allait tenir? Est-ce qu'il n'y avait pas un doute que peut-être LAFC avec Vela, Urena et Rossi n'allaient pas faire une remontada? Peut-être pas gagner, mais est-ce que vraiment vous avez cru que rien n'allait se passer? Moi, je pense que les gens qui se sont dit que non, ils vont gagner, je pense qu'ils se sont mentis un peu. Parce que vraiment, lorsque Vela et Rossi avaient déjà fait en première mi-temps, et Urena, qui n'était pas bon en dernier avec San Jose, moi, je pense qu'il fallait, supposer que l'Impact n'allait pas sortir avec 3 points.
Sofiane, oui, une fois que tu dis ça, OK? Pourquoi Jason Vargas est encore sur le terrain?
Oui, est-ce que Vargas est resté trop longtemps sur le terrain? C'est possible. Il est sorti à la 80 minutes, 90 minutes.
Il était trop tard déjà.
Oui, mais je pense qu'il voulait surtout que l'Impact marque ce fameux 4-1 pour détruire.
Moi, je pense que Rémi Garde, on voit sa personnalité là. On commence à le connaître un peu plus. C'est pas quelqu'un.
Est-ce que tu dis qu'il a une tête, est-ce que tu dis qu'il a une tête dure? C'est ça que tu dis?
Non. Moi, je dis plutôt que c'est quelqu'un qui est trop. Il est trop classique, là. Il n'est pas gambler.
Il est trop vanille.
Comment?
Il est trop vanille.
Ouais, c'est un bon terme. Parce que, on l'a vu dans les autres matchs, là, on voyait que, mettons, Petrasso était fatigué, il a pas osé mettre Duval, puis ça coûtait un peu rien, ça coûtait des points. Là, Vargas est là, il préfère le descendre. Pourtant, on l'a vu comme milieu de terrain, lui aussi, il le veut. Vargas au milieu de terrain, c'est pas mal un fantôme. OK, oui, s'il y a un coup franc, il va être utile, mais si on n'a pas de ballon, on n'aura jamais de coup franc. Oui, mais c'est vrai quand même. Il n'y a pas beaucoup d'options. OK, je peux comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'options sur le banc.
Ouais.
Mais s'il y a une chose que Kroulicki est capable de faire, c'est de faire du pressing, c'est de travailler fort au milieu de terrain.
Ouais.
C'est peut-être pas efficace, mais au moins, de temps en temps, il va réussir un truc que Vargas ne va jamais réussir. Tu sais, une fois que j'ai dit ça, au début, les deux buts, ben, c'est deux phases arrêtées. Et ça, ça ne change rien. Que ce soit Vargas, que ce soit Kroliki, que ce soit une équipe à 10 ou une équipe à 11, ces deux buts-là qu'on concède sur des phases arrêtées, ça commence à être gossant. On change de coach, on change de joueur, c'est tout le temps le même problème. La seule constance, comme je l'ai tweeté, c'est Bush. Est-ce que c'est vraiment Bush le problème dans les phases arrêtées? Est-ce que c'est lui qui doit soit prendre en charge sa surface, qui doit contrôler un peu plus ses joueurs autour de lui? Ça se peut pas que d'une année à l'autre, on change plein de trucs, mais ça finit que c'est tout le temps la même affaire. Les buts, c'est des suites de cafouillage, là, tu sais. Mm-hmm. Un gars passe dans le beurre, tout le monde est sa panique, personne n'est vraiment sûr de qui va aller sur le ballon, qui va couvrir. Ça se peut pas prendre des buts continuellement sur des phases arrêtées de même. Et à ce moment-là, c'est plus vraiment du out coaching sur ce match-là, tu sais. C'est plus de l'entraînement, comme je sais pas comment expliquer ça, là. C'est pas nécessairement un hard coaching.
Mais est-ce que
contextuel du match, ça va au-delà de ça, là.
Mais est-ce que t'as l'impression vraiment que les problèmes de phase arrêtée cette année, ça ressemble au, c'est la répétition de ce qu'on a vu depuis 2-3 ans? T'as vraiment l'impression?
Ben, c'est les mêmes mouvements de panique.
Ouais, mais Nilton, ça, c'est un truc qu'on voit dans tous les matchs, dans le football. C'est j'ai l'impression.
Non, je suis pas d'accord. OK, on va comparer avec des grosses équipes, là, mais oui, là, je viens de voir le match, la Juve, Napoli.
Oui,
un ballon qui est centré, là, que ça soit Buffon ou Reina, il est tout le temps proche du ballon. Il n'y a pas un pas arrière, avant, on hésite. Il est tout le temps dedans. Il y a toujours au moins un défenseur sûr. Là. C'est sûr que c'est pas la même. Je ne peux pas comparer que ce soit
Italie,
mais lui, quand il saute, là, c'est à lui là, le ballon. Il n'y a personne d'autre. Là. C'est clair et net que quand un ballon rentre dans la surface, c'est lui qui y va. C'est le gardien. À Montréal, je vois tout le monde qui regarde l'autre.
Non, c'est vrai. Mais ça c'est pas une question d'attitude. Hein? Le mot attitude, c'est je pense que c'est une question que ces joueurs-là ne savent pas dégager des ballons de la tête et se positionner. Je pense que c'est une question d'attitude. J'ai plusieurs cette impression.
Ça veut dire quoi, ça?
C'est une question d'attitude. Dans les coupiers arrêtés, tu peux avoir les meilleures stratégies du monde, les XO, les vidéos, puis les placements, puis les schémas sur les ardoises. Mais à la fin, il faut que tu exécutes. Il faut que tu suives le joueur quand il bouge. Il faut que tu sois, souvent dans les phases arrêtées, c'est des défenses de zone. Dans le foot moderne. Peut-être dans les années 90, c'était du man-to-man. Mais là, c'est beaucoup plus la zone avec...
Ouais, c'est un peu mix, là.
C'est la zone avec du mix parce que un coup franc ou un coup franc indirect ou un corner, il y a du mouvement. Mais tu t'assures de couvrir des zones spécifiques qui sont clés. Sinon, ton man-to-man, ta couverture man-to-man ne va jamais marcher. Mais j'ai pas l'impression que je vois des comportements au sein des coupiers arrêtés de l'Impact que j'ai pas vu ailleurs dans le monde. Et je dis pas que c'est le niveau Juve-Naples ou Bayern-Dortmund, non, mais je dis... J'ai pas l'impression que, il y a que l'Impact dans le monde du foot qui ont vraiment ce problème de coupier arrêté, ces attitudes de panique où ça dégage pas assez le ballon, c'est pas assez agressif. Vraiment, je l'ai vu ailleurs. Mais encore une fois, est-ce que c'est les pires en MLS? C'est très possible. Les gens vont sortir les stats qu'en termes de buts concédés en coupier arrêté, l'Impact c'est la pire équipe de la Ligue depuis 2012. C'est possible. J'ai pas les stats en main, j'ai aucune idée.
Mais on n'a pas de patron. On le sait, là. Evan Bush, c'est pas le patron de la surface. Les défenseurs centraux, on ne l'a pas vu. T'sais, peut-être qu'avec Fanny, ça serait différent. Ça va être clairement un patron. Peut-être qu'avec Diallo, il aurait pris ce rôle-là de patron de la surface. Puis que là, on se retrouve par défaut avec des gars qui sont pas capables de faire ce travail-là, d'être le patron dans les phases arrêtées. Parce qu'en dehors des défenseurs centraux, ça sera pas Piette qui va gagner des ballons de la tête, ça sera pas nos autres milieux, ça sera pas nos attaquants, hein, parce que nos attaquants s'appellent Vargas puis Piatti, c'est pas nos latéraux. Fait que finalement, il reste plus personne. Finalement, c'est très, très, très facile de gagner des duels parce que le one-on-one, à part un duel ou deux, on est tous perdants.
Oui, c'est vrai, mais regarde, c'est pas que j'ai pas envie de parler de ce sujet, mais j'ai du mal à dire que c'est catastrophique, parce que oui, les stats vont dire que c'est catastrophique, mais j'ai vraiment pas l'impression que... En même temps, si l'Impact attaquait plus, il se prenait pas à toute copie arrêtée, là, donc...
C'est sûr.
Donc, c'est...
Bon, c'est un autre sujet, d'abord.
Je suis vraiment lourd, hein.
Ouais, une chance que je t'aime. Hollywood nous demande comment on a trouvé l'Impact avant le carton rouge.
C'était pas mauvais. Il y avait de la confiance. Il y avait de la confiance. Il y avait des
J'ai même vu une séquence où on a réussi pas loin de 10 passes consécutives.
Non, ça, je me rappelle de ça. Puis sur le but de Piatti, la frappe là, sur le centre de Silva qui envoie le centre à Taider. C'était une belle séquence. Il y avait,
Et on voyait les triangles. Finalement, le vide jouait haut. C'est à ce moment-là, quand tu avais donné un peu le trou de Poutine, moi j'avais cette référence où le début de match, c'était bon parce que là, on voyait son ancien rôle de milieu offensif au collège. Une fois qu'on est dans l'autre moitié du terrain, il y a ses bons réflexes, il y a ses belles courses, il contrôle bien le ballon. On a vu Duval qui était impliqué, qui se donnait à fond pour aller chercher le ballon jusqu'à la ligne du fond. C'était bien, puis même je m'étais dit, finalement, Nilt, le 5-3-2, c'est pas si mal.
C'est pas si mal. Oyongo peut revenir.
Oyongo, non, ça je l'ai dit à mon partner de billet de saison, Thierry, j'ai toujours préféré le Vite à Oyongo, c'est fou. puis, tout d'un coup, est-ce que ça veut dire que l'Impact est incapable de jouer cette saison avec quatre défenseurs? C'est ça que ça veut dire?
Ça veut dire que l'Impact a besoin de bloquer l'axe. Donc, ils font ce qu'ils peuvent pour le faire. Sinon, ils le feraient pas. C'est mon impression. J'essaie de l'expliquer le plus simple. J'essaie de simplifier les choses, mais c'est comme ça que je le vois.
Si l'Impact... Pour bloquer l'axe, il faut des joueurs qui sont capables de jouer dans l'axe.
Ben, t'en mets trois, puis... et tu espères que ça marche.
Ah, ben ça va. Non, mais ça marche pas. Ça fait 7 matchs. Ça marche pas.
Moi, je pense que peut-être ils voient que le milieu de terrain est trop pour eux, peut-être. Ou peut-être qu'ils savent qu'ils vont pas pouvoir attaquer puis avoir beaucoup de positions. De position de balle. Donc il se dit, tant qu'à faire, il faut qu'on puisse bétonner en arrière de façon systématique. On verra, Nilton. Ça fait juste 6 matchs. Ça fait déjà 6 matchs, mais c'est seulement 6 matchs. Donc on va se parler à 7, pardon. Excuse-moi. J'entendais un écho. J'ai dit, du coup, il parle de temps. 7. Ça fait déjà 7 matchs.
Ils ont tous compté ces matchs. Il n'y avait aucune pratique, là.
Ça fait déjà 7 matchs. Non, c'est 6 matchs. Non, 7. Non, la saison est finie, il faut arrêter. non, blague à part, ça fait seulement 7 matchs et c'est déjà 7 matchs. On va voir. Normalement, je peux pas dire la fameuse phrase de Radio-Canada si la tendance se maintient, parce que j'ai vraiment du mal à avoir une tendance. La seule tendance que je vois, c'est que soit Piatti marque, soit c'est mort. Soit Piatti fait qu'il joue comme un dieu à chaque match, soit c'est mort. Donc, je vois pas comment ce collectif va pouvoir accélérer son développement. Peut-être c'est une question de 2-3 matchs pour qu'il y ait un déclic. Mais encore une fois, il y a des facteurs X. Vargas, c'est quoi son rôle dans la vie? Silva, j'espère qu'il aura un rôle plus percutant, plus intéressant. Les latéraux, c'est pas assez. Maintenant, à partir de maintenant, voyons les autres latéraux de la Ligue. Ce qu'on a maintenant, c'est pas assez bon pour être à un bon niveau, un bon club MLS.
Donc, pour répondre à Michel Gaumont, qu'est-ce que Rémi Garde aurait pu faire pour solidifier son équipe et protéger le 3-1? La réponse, c'est rien.
Rien, parce qu'il a fait tout ce qu'il a pu faire.
Il n'a rien fait. Il a juste espéré que l'équipe en place était capable de le faire.
Oui, c'est ça. Je vois pas Belangoyette ou Jackson Hamel. Peut-être Jackson Hamel pour marquer des buts ou Petrasso faire une différence dans ce match-là. Ou même Raheem Edwards, surtout.
Est-ce que... Suggestion comme ça. Est-ce que descendre Piatti au milieu de terrain et mettre un vrai avant-centre qui est capable de tenir le ballon, ça aurait été plus utile?
Ben oui, c'est un vrai avant-centre. Piatti descend d'une coche, mais Piatti reste proche de la surface.
On avait deux vrais avant-centres, là.
Ouais, mais ils sont pas assez bons. Pour Rémi Garde, ils sont pas assez bons. Et surtout que.
Ils sont pas assez bons ou parce qu'ils étaient pas top physiquement?
Moi, je pense que. Il peut se justifier par rapport à la méforme physique de Jackson Hamel et de Mancuso, mais aussi que le fait que la chimie entre Piatti et Vargas est relativement bonne.
Hey boy!
Relativement bonne. J'ai mesuré mes mots.
Il n'y a pas de chimie, arrête-moi ça, là.
Mais en tout cas, il est mis ensemble, donc ça, il doit penser que ça marche quelque part à l'entraînement.
Là, on est en train de se rendre compte là, que Vargas, c'est pas terrible. Hein?
C'est pas un attaquant point de Vargas, là. C'est pas compliqué. Je suis pas prêt à dire que c'est un mauvais joueur.
C'est quoi sa vraie position?
Non, j'ai l'impression que c'est un ailier.
Sans ailier, c'est un gros problème.
Voilà quoi. C'est, encore une fois, faut mettre les gens dans les bons rôles. Il faut qu'ils portent les bonnes chaussures pour aller au travail. Là. ne porte pas des claquettes pour aller jouer, pour aller construire un bâtiment.
On a sorti plus qu'un million de dollars pour lui, là.
Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, toi, on avait Mancuso comme attaquant. Tout va bien. Tout va bien. Toute la ligue a au moins un attaquant de pointe qui est capable de genre marquer comme du monde. Et les FC, ils ont zéro attaquant de pointe, mais ils ont deux ailiers qui peuvent marquer 15 buts chacun. L'Impact a juste un ailier qui est capable de marquer 15 buts.
My God.
T'imagines?
Avant de commencer le podcast, là,
t'étais positif.
J'avais digéré la défaite, là, ça allait un peu mieux. Là, t'es en train de me défaire, là, tout le mojo. Là.
Parce que j'attends juste de voir ce que Silva et Vargas vont donner de façon systématique et comment Tider va pouvoir s'adapter. Parce que Tider, il peut s'adapter facilement. Il peut jouer le rôle de l'autre.
Il change de vitesse. Là. Tider, il faut qu'il clutch. Là, il
est oui, mais lui.
Il est pris en deuxième vitesse. Là, go. Là,
mais lui il va switcher avec le collectif. C'est pas un gars. C'est pas un gars qui va
décider. Mais c'est lui le collectif. Là. Il peut pas se dire je vais attendre que Kroliki devienne bon.
Non, mais quand Tider, il prend le ballon sur 30-20 mètres, il le fait souvent même contre l'AFC. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui donne le ballon. Qu'est-ce qu'il fasse, Nilton? C'est pas Djemaili. Même Djemaili, il ne faisait pas ça avec l'Impact. Tu vois, je veux dire, il faut rester conséquent. Tider, c'est un 8 qui est timide offensivement. Tider, tu le mets à Nguyen, tu vas voir comment Tider va être meilleur. Parce que lui, il va pouvoir se déplacer autour de Nguyen et on va pouvoir se fider et laisser Piatti s'occuper du reste. Mais bon, moi, je suis pas recruteur, je sais pas de quoi je parle, c'est pas grave. Mais,
attends,
juste pour dire ça. Allô? Allô? Allô?
Oui?
Allô, oui?
Teach Tournesol nous demande est-ce que Vargas doit faire un petit tour sur le banc.
Salut Teach, je pense qu'il y a aussi un patron, donc merci Teach Tournesol d'être un patron du CANAFC. Honnêtement, le staff va faire que Piatti soit dans des bonnes conditions.
Oui ou non?
Non, il n'ira pas sur le banc.
Aïe.
Il n'ira pas sur le banc, à moins que vraiment. Je ne sais pas comment
le staff... On peut répéter sans cesse le même alignement avec les mêmes joueurs puis espérer que ça va être différent. Ça va être encore toujours la même chose.
Oh, regarde, j'avoue que le fait qu'il manque à défenseur central... Il se peut que Vargas sorte ou que Vargas joue avec Piatti et Mancuso, par exemple.
Moi, là, le rôle de Vargas, je le vois dans une équipe... Malheureusement, puis ça, c'est plus mon problème parce qu'ils l'ont payé cher puis ils l'ont vendu comme un gars qui allait peut-être devenir le prochain Almiron là, de l'Impact de Montréal, mais... Vargas, là, c'est un gars qui peut être utile en fin de match. Là. Il reste 20 minutes, 25 minutes, puis on court après un résultat.
Et tu le lâches l'os.
C'est ça. Et on le met là comme deuxième attaquant, électron libre, promène-toi, fais ce que tu veux. On gagne un coup franc, fine, tu vas être utile.
Ouais.
Dans un rôle fixe de 70 minutes, 80 minutes, non. Il est un peu perdu. Il nuit beaucoup trop pour ce qu'il apporte.
Mais est-ce qu'il peut être un ailier dans un 4-3-3 qui serait possible contre
peut-être.
Atlanta?
Peut-être. Mais à ce moment-là, le peu de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant de Silva, je préfère avoir Silva comme ailier droit au lieu de Vargas.
Mais Silva va se retrouver avec Piatti et Tider parce qu'il n'y a personne d'autre. Donc, je pense que Silva sera sacrifié. Hein? T'as vu ça, Nilton? Boum! Je te contre.
À chaque fois. Finalement, là, cet argent-là à Donadel, ça aurait été le fun de le mettre ailleurs.
Ah, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, large, il y a beaucoup de termes et gammes qui ont pu être utilisés de façon plus efficace, surtout que l'Impact n'a toujours pas d'attaquant de pointe qui est capable de marquer 15 buts dans cette ligue.
Donc, pour résumer, on n'a pas d'attaquant de pointe et on n'a pas de milieu.
Offensif, il manque un troisième milieu offensif.
Ouais, puis défensivement, on n'est toujours pas sûr.
C'est qui le boss?
C'est qui le patron?
Les latéraux, on n'est pas sûr ce que ça vaut encore. Dans un club qui veut.
Et après, tu demandes si on est une équipe de play-off, c'est ça?
Exactement.
Eh hey boy! Une dernière question avant de déprimer. Kevin Douska.
Salut Kevin.
Compte tenu qu'il y a un déséquilibre offensif causé par la présence.
Par la présence de?
Potentiellement des problèmes. Comment?
T'as coupé Nilton, excuse-moi.
Oui, je continue. Est-ce que tu... OK, je recommence. Donc, vas-y. Il nous demande, compte tenu qu'il y a un déséquilibre offensif causé par le focus de Piatti sur son flanc gauche, qui va causer des problèmes potentiels en transition défensive, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'essayer avec deux milieux défensifs centraux? Puis il termine sa question, mais il résume pas mal bien la situation et aussi comment on se sent. Je ne comprends plus rien de ce club. Ben, au fait, on comprend. C'est juste qu'on est vraiment déçu de se rendre compte que tout ça, ben, il n'y a rien qui a changé.
Il n'y a rien qui a changé, mais l'Impact joue quasiment avec deux milieux défensifs lorsqu'ils ont du mal à attaquer. Donc, Taider joue avec Piet. Il est obligé d'être défensif. Silva, aussi, devient des milieux défensifs contre l'AFC, il joue à 10.
Ouais. Donc, et quand on joue à 5 défenseurs, il y a donc 3 défenseurs centraux, c'est un peu le même concept. C'est d'avoir un autre body défensif
exactement.
Dans l'axe. Ça. Mais on n'en a pas d'autres milieux défensifs. Hein. On s'entend que Piet se blesse demain matin.
Ouais, tu vas upgrader Kroliki, puis Belanguet, puis Taider va devenir ton milieu défensif. Là. Il peut le faire.
On fait des nouveaux records au niveau but concédé. Là.
Mais il y aura jamais, on ne peut jamais se plaindre que l'Impact ne joue pas les jeunes, ça c'est sûr. Parce que ça sera par défaut. Mais non, c'est vrai. Bonne question de Kevin Duska. Puis, honnêtement, le fait que tu aies un déséquilibre pour laisser Piatti marquer, c'est un déséquilibre nécessaire. Tu ne peux pas jouer trop sur un côté et espérer être équilibré sur ce même côté-là. C'est normal. Lovitz, il va souffrir beaucoup parce que Piatti attaque beaucoup. Et c'est normal. Donc, quand Piatti monte,
l'Impact a des problèmes défensifs parce qu'ils n'ont pas assez de solutions offensives. À chaque fois qu'ils gagnent un peu le ballon, ils vont le reperdre trop facilement parce que le bloc est trop bas. Tous les joueurs sont dans une position défensive. Rajouter, enlever Kroliki pour mettre un deuxième Piet, ça ne va rien changer. Là. Il faut absolument qu'une fois qu'on a gagné le ballon, il faut que tout le monde se pousse un peu plus vers l'avant. Ce milieu défensif, il faut qu'il monte un peu plus. Ce deuxième milieu défensif devrait être Taider. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un autre milieu un peu plus à vocation offensive.
Tout à fait. Puis il faut aussi un attaquant pointe qui est capable d'attirer les défenseurs et de faire des courses. En amont, arrêtez de dire garde, s'il te plaît, Rémi, garde. Arrête de comparer Mancuso à Cavani.
Pour... Oui, mais Cavani, il marque pas de but.
C'est ça. Non, mais il faisait la comparaison par rapport à l'effort. Ouais. L'effort de travail sur le terrain, comment il s'écrive pour le groupe, le
collectif. C'est vrai, mais ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai. Mancuso, il avait jamais un problème d'effort. Mais maintenant, en 2018,
l'Impact... Papouni aussi travaillait très
exactement,
fort.
Exactement, il travaille très fort. Et ça, c'est vrai, les Italiens ont une éthique de travail. Il n'y a pas une fainéantise italienne dans le foot. Là. Il y a un style différent, mais ils ne sont pas fainéants. Mais, du moins, je parle des attaquants, la tradition italienne des attaquants. Mais, en 2018, quand tu vois les autres clubs, ce qu'ils ont comme attaquants pointe, ceux qui sont en concurrence avec toi, il faut que tu aies un attaquant pointe qui a du talent, qui a du finishing, qui a pas arrêté les gars de 35 ans. Même Torres, je trouve ça très bien s'il vient, mais ça va quand même déranger par rapport à son âge. Mais c'est mieux que tout ce qu'on a en ce moment.
Non, est clairement l'équipe avec les moins bons attaquants. Là.
On n'a pas d'attaquants, Lilton. Sur le 11 titulaire, il n'y en a pas. Jackson Hamel, il est meilleur que Mancuso, mais il ne joue pas. Donc, qu'est-ce que je dis, Jackson Hamel? Il n'est pas bon, je ne sais pas. Honnêtement, athlétiquement, Jackson Hamel est beaucoup plus intéressant que Mancuso. S'il se blesse souvent, too bad, il ne jouera pas. Mais honnêtement, il faut arrêter là. Honnêtement, Vargas là, comme attaquant, c'est sérieux.
Non, mais on va voir ta rêve.
Non, tout va bien se passer.
Tu crois?
On verra après les galaxies. c'est toujours le mois de mai, on aura le temps de faire la fameuse prédiction. On verra. Bon, sur ce, l'émission conclue. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. En direct. Sur soundcloud.com/infootballclub, Spreaker, iTunes, Cannes Football Club Plus et toutes les plateformes de balado diffusion. Sur Facebook, Cannes Football Club, Nilton, c'est Twitter, @NiltonGeorge, J-O-R-G-E, et moi, @SofianeBenzaza. Et n'oubliez pas de partager le podcast avec votre connaissance, vos amis, vos collègues, et aussi, si vous voulez aider l'aventure du Cannes Football Club, allez sur notre page Patreon, patreon.com/CannesFootballClub. Les liens vont être dans les descriptions de l'émission. Donc, merci encore, Nilton. Toujours un plaisir de parler bleu, blanc, noir en ce dimanche printanier. Bonne soirée, Nilton.
Ciao, ciao.
Ciao, tout le monde.